Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Maintenant, pour ce matin, ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons voir une introduction réellement du verset 18 à 20, chapitre 1. Comme vous le savez, si vous avez été avec nous, introduit cette grande épître, et dans cette section particulière, les versets 18-20, dans lesquels Paul fait le résumé de l'introduction à toute l'épître. Il y fait référence au combat, et Paul invite Timothée à un combat noble. J'aimerais que nous regardions ces versets, et ensuite, avant de les examiner spécifiquement, je voudrais un peu parler ce matin de ce combat. Regardons le verset 18. « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles. Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez juste l'expression à la fin du verset 18. Paul invite Timothée à combattre le bon combat. Le mot « combattre », que vous devez combattre, est un verbe du grec « strateio », qui est la source de notre mot « stratégie », et il signifie « combattre comme un soldat », et ensuite « combattre un noble ». Le mot « kalos » signifie un combat excellent, ou noble. Et le mot « combat », « stratoia », signifie une campagne. Alors ce que Paul dit à Timothée, en écrivant toute cette épître, vise à l'amener à combattre le noble combat, à combattre une campagne noble ou excellente. Maintenant, versets 18, 19 et 20, il lui donne trois compréhensions nécessaires pour bien combattre. Et je verrai ces trois la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais juste introduire le concept de ce combat, parce que je crois qu'il est très important pour notre temps. Tous les combats ne sont pas des combats nobles, et tous les combats ne sont pas menés avec noblesse. Mais voici un combat noble, un bon et excellent combat, qui doit être bien combattu. Maintenant, ce que Paul veut partager, c'est un combat cosmique, avec d'énormes proportions spirituelles. Il ne parle pas d'une guerre physique, ou même d'une guerre terrestre. Il ne parle même pas d'une guerre humaine. Il parle d'une guerre à un niveau spirituel, et il rappelle à Timothée qu'il doit combattre un combat noble. Et son rappel à Timothée est en effet un rappel à nous tous également. Maintenant, souvenez-vous, Paul avait laissé Timothée à Éphèse. Il y avait laissé pour se battre contre l'ennemi. L'ennemi avait empiété sur l'église d'Éphèse. L'erreur était enseignée. Les faux dirigeants étaient en position de proéminence, pouvoir et autorité. La piété était attaquée, et Timothée doit corriger ces choses. Il est donc au front même d'une partie de ce grand combat spirituel. Et ce que Paul lui dit dans ces trois versets nous est aussi très instructif. À un moment ou à un autre, nous sommes engagés dans le même combat, la même campagne. Maintenant que je le dise pour commencer, que le combat de Paul, à son plus haut niveau, montre un énorme conflit entre Dieu et Satan. C'est le niveau primaire du combat. Toute autre chose, dans un sens, y est comprise. C'est une guerre de l'Éternel Dieu, Jéhovah, et sa vérité, contre Satan et ses mensonges. C'est une guerre entre Dieu, sa volonté, et Satan et sa volonté, et une telle guerre n'est pas seulement menée entre Dieu et Satan, mais aussi entre les démons et les saints anges, entre les hommes pieux et les impies, au point où ce combat cosmique en Dieu et sa plus grande créature, Lucifer, descend jusqu'en bas pour impliquer les êtres humains, y compris nous. Maintenant, pour que nous puissions comprendre ce combat, nous devons étudier ces éléments. Vous vous souvenez dans Luc, chapitre 14, et le verset 31. Jésus énumère un principe très évident, dans un autre contexte, mais le principe s'applique. Il dit, « De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient d'attaquer avec 20 000. » En d'autres termes, Jésus dit qu'aucun roi ne va en guerre avant d'avoir compris les termes du combat, la puissance de son ennemi, les enjeux du combat, et nous sommes engagés dans un combat spirituel. Maintenant, je pense que ceci a échappé à la majorité des chrétiens américains contemporains, qui ne comprennent absolument rien du combat. Il y en a plusieurs qui, pour avoir reçu l'évangile de la croyance facile, une grâce à bon marché, parce qu'on leur a dit que Jésus se trouve là où on a les bonnes choses, et c'est tout, croient que l'on vient à Jésus pour recevoir beaucoup de choses, et la vie dès lors est censée être un jardin de roses, une vie d'aise, de bonheur et de prospérité, avec la santé, la richesse, l'argent et tout le reste. Ils n'ont absolument aucun concept du combat spirituel. Beaucoup de chrétiens sont engagés dans ce que j'appellerais des futilités. On m'a raconté le témoignage d'une femme qui s'était levée dans notre église ici il y a quelque temps pour partager son témoignage. Elle a dit « Satan m'attaque à un niveau où je ne peux plus le supporter. Satan m'envoie des assauts et je ne peux pas gérer. Je suis à bout de force. » Et quand on lui a demandé de quoi elle parlait exactement, elle a répondu « À cause de la peinture dans notre maison, nous devions recouvrir tous les meubles, et je ne pense pas que je puisse encore le supporter. Maintenant, si ceci n'est pas une futilité, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est ahurissant que quelqu'un pense que ceci est un combat spirituel, et que Satan vous attaque parce qu'il y a tellement de poussière dans votre maison. Mais il y a ce niveau trivial où vivent tant de gens. Il y a une ignorance au sujet de la réalité du combat spirituel, et si nous devons comprendre ce que Paul dit à Timothée au sujet du combat noble, alors nous allons devoir comprendre certains des éléments de ce combat, et à cette fin, je veux vous parler ce matin. Maintenant, à l'origine, il n'y avait pas de combat, pas de rébellion. Tout dans le monde de Dieu, dans l'univers de Dieu, était parfaitement harmonieux. Il n'y avait pas de réaction à son propre règne. Il n'y avait aucune animosité à ce qu'il exprimait comme son saint dessein et sa volonté. Il n'y avait pas de conflit, pas de lutte, pas de rébellion, juste une paix parfaite et l'harmonie. Mais alors, il survint un événement désastreux qui dressa Dieu contre Satan, pour l'éternité. Afin de le comprendre, je veux que vous alliez dans l'Ancien Testament au 28e chapitre d'Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 28. Et je voudrais que vous voyiez le cadre de la compréhension de ce combat. Et nous commençons à le saisir, ici, en lisant, le chapitre 28 d'Ézéchiel. Maintenant, le prophète Ézéchiel donne des prophéties sur Tyre. Tyre, cette ville sans Dieu du chapitre 26, avait reçu la promesse d'un jugement. Dieu allait faire venir le jugement sur cette ville. Chapitre 27 est donc une sorte d'hymne funèbre, un chant funèbre au sujet de ce qui va arriver à Tyre. Et le chapitre 28 est une mise en accusation du prince ou du roi de cette ville. Mais en parlant contre le roi de Tyre, le prophète va au-delà du roi lui-même, pour parler de celui qui est à la source de cet antagonisme à Dieu. Le roi de Tyre était simplement un pion dans l'activité de Satan. Satan se servait de cet homme, comme à son habitude, et nous sommes bien conscients en étudiant l'Ancien Testament, plus spécifiquement la prophétie de Daniel, que derrière les actions impies du monde, Satan et son armée de démons donnent de l'énergie à leur activité anti-Dieu, nous le savons, et ce n'était pas différent à Tyre, bien que l'homme lui-même, appelé au verset 2 le prince de Tyre, faisant référence à celui qui était roi, comme il est désigné au verset 12. Bien que cet homme était mauvais, un homme impie et un homme qui œuvrait contre Dieu, il n'était qu'un outil dans les mains de celui qui est derrière les rideaux, au niveau de ce combat cosmique surnaturel, entre Dieu et Satan. Nous voyons cela quand nous commençons au verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, et c'est une référence à Ézéchiel. Il est appelé ainsi dans l'Ancien Testament. Prononce une complainte contre le roi de Tyre. Tu lui annonceras. Ce qui est ensuite dit, au milieu du verset 12, ne peut jamais être attribué à cet être humain, et nous allons le voir au fur et à mesure que nous progresserons. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Maintenant, que signifie cela? Simplement ceci. Quand une chose est scellée, elle est scellée parce qu'elle est achevée. Elle est scellée parce qu'elle est finie. Elle est scellée parce qu'elle est consumée, tout comme lorsque vous rédigez une lettre. La mettez dans une enveloppe que vous scellez ensuite. Quand vous achevez un travail et vous scellez ce travail, il est fait. Alors voici quelqu'un qui scelle la somme, c'est-à-dire un être parfaitement créé, une personne tellement complète que le travail est fini, que la somme est faite et le sceau est placé. Le verset 12 dit aussi que cet individu qui scelle la somme et plein de sagesse, et parfait en beauté. Plein de sagesse, ne manque pas de sagesse, et parfait en beauté. Maintenant, évidemment, cela ne peut pas faire référence à un être humain. Aucun être humain n'est aussi parfait au point d'être scellé, signé et fini. Aucun être humain n'est rempli de sagesse, et aucun être humain n'est parfait en beauté. Plus encore, le verset 13 dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». Maintenant, cela ne pouvait pas être une référence au roi de Tyr, qui n'avait pas été dans le jardin d'Éden. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». Cela signifie que nous voyons ici le serpent, le diable, l'ennemi, l'adversaire qui était là, dans la gloire du jardin d'Éden. Nous noterons aussi, s'il vous plaît, que si dans sa beauté et dans sa sagesse et dans sa perfection, il était dans le jardin de Dieu, la chute de Satan et la chute des anges doit avoir eu lieu après la création et l'occupation du jardin d'Éden. Il y a des gens qui nous disent que la chute était survenue avant la création. Cela ne semble pas cadrer avec ce texte. Si cet individu glorieux et totalement parfait était dans le jardin de Dieu dans sa perfection, alors il avait chuté après la création, quelque temps avant qu'il ne soit changé en serpent dans la manifestation, et qu'il ne cause la chute de l'homme par la tentation. Alors, il dit aussi au verset 13, « Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. » Et ensuite, le texte liste 9 pierres précieuses, et toutes ces 9 sont aussi incluses dans le bouclier du souverain sacrificateur, décrit dans Exode 39, versets 10 à 13. Il nous indique donc, parce qu'elles sont dans le bouclier du souverain sacrificateur, et elles sont aussi utilisées ici pour couvrir cette créature incroyablement belle et parfaite, qu'elles sont le paroxysme de la beauté et la gloire de la création de Dieu, parce que Dieu avait mis dans le bouclier du souverain sacrificateur ce qui manifeste la beauté et la magnificence de sa gloire, reflétée dans ses bijoux. Ces êtres portent donc les mêmes pierres, 9 des 12. Cela nous dit simplement que cette créature est parfaite, glorieuse, magnifique. Le verset 14 l'appelle le chérubin, oint et protecteur. Les Juifs considéraient le chérubin protecteur comme l'ange le plus sacré de tous. Ce que cela signifie, c'est que quand le propitiatoire et le couvercle de l'arche de l'Alliance étaient conçus par Dieu, il était prévu qu'il y ait 2 anges, un de chaque côté, déployant leurs ailes au-dessus du propitiatoire, appelé le chérubin protecteur. Il y avait des représentants de ces anges qui se préoccupaient de la sainteté de Dieu, et ils recouvraient ce propitiatoire où on faisait l'expiation entre Dieu et les hommes par l'aspersion du sang le jour de l'expiation. Ces anges sacrés, donc, qui étaient les chérubins qui recouvraient, ceux qui, aux yeux des Juifs, étaient les plus sacrés, seraient donc assimilés à celui qui est appelé le chérubin protecteur oint, la plus grande des créations angéliques, en charge de la gloire et de la sainteté de Dieu. Et au verset 14, « Je t'avais installé. » Non seulement Dieu avait créé les anges, écoutez attentivement, non seulement Dieu avait créé les anges, mais il les avait créés afin qu'ils répondent à une hiérarchisation. Ils sont une hiérarchie d'anges. Il y a des chérubins et des séraphins. Il y a des dirigeants, des principautés et des pouvoirs. Et tous ces termes sont relatifs à des strates d'anges différents dans le dessein de Dieu pour le fonctionnement du réseau des anges, pour accomplir ses ordres. Et ici, il y en avait un qui était de façon suprême, établi comme chérubin oint. Il dit plus loin au verset 14, « Tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. La sainte montagne de Dieu et les pierres étincelantes seraient la gloire de la demeure même de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un ange commissionné pour être quelque part d'autre que dans la présence immédiate de Dieu, dispatché pour d'autres tâches. En passant, les anges ne sont pas omniprésents. Ils ne peuvent être qu'à un endroit à la fois, même s'ils peuvent se déplacer très rapidement, comme nous le montre Daniel dans sa prophétie. Mais les anges peuvent être loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire sa glorieuse demeure immédiate au ciel, mais pas cet ange. Cet ange demeurait sur la sainte montagne et marchait là où il y avait des pierres étincelantes, parlant du lieu saint sur lequel est érigé le trône de Dieu dans cet environnement céleste. Le verset 15 dit « Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé », insistant encore sur la perfection absolue de cette créature. Et ensuite, vous pourriez vouloir souligner ceci, bien l'expression désastreuse, « Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. » Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Et c'est là le début du combat spirituel, au niveau cosmique. quand Satan s'oppose à Dieu, ce chérubin oint se dresse contre Dieu. L'iniquité est trouvée en lui. Maintenant, nous ne comprenons pas comment cette situation est survenue. Les gens disent, « Eh bien, il a dû être tenté de l'extérieur. Il n'aurait pas pu l'être. Il n'y avait pas de mal à l'extérieur. C'était un environnement parfait. » D'autres prétendent qu'il avait été tenté de l'intérieur. Il n'y avait aucun mal à l'intérieur. Il était parfait. D'où cela était-il venu? Cela n'était pas venu de l'extérieur et ne pouvait pas venir de l'intérieur. D'où cela était-il donc venu? Et la réponse est que nous n'en avons aucune idée. Dans nos petites pensées limitées, nous ne pouvons pas concevoir comment une telle chose pouvait arriver rationnellement. Alors nous l'acceptons par la foi, au même titre que les choses que nous ne comprendrons que lorsque nous aurons une compréhension parfaite dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce moment, nous acceptons le fait que c'est arrivé. Et si vous avez des doutes, alors c'est que vous ne regardez pas autour de vous, parce que le péché est présent, les amis, et il est venu de quelque part. C'est futile et, franchement, inutile de débattre pour savoir comment c'est arrivé. Tout ce que nous devons faire, c'est réaliser que c'est arrivé, ce qui n'est pas discutable. Alors cet ange est inique. Le verset 16 le décrit davantage, et Dieu dit « À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. En d'autres termes, tu étais tellement glorieux, tellement merveilleux que tu devins corrompu. Maintenant voici la seule indication que nous avons quant à l'ontologie de l'origine du péché. Il dit, ton cœur s'est enorgueilli. Il vint donc de l'intérieur. Mais comment est-ce qu'il vint de l'intérieur? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais cet ange était tellement épris de sa perfection, de sa beauté, de sa sagesse, de sa gloire, et par cette réponse inique de l'orgueil, verset 18, qu'il profana les sanctuaires, au point où il fut chassé par Dieu du ciel, afin d'être détruit. Maintenant voyons ce qu'est spécifiquement le péché, en regardant un autre prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Et ici, nous trouvons encore dans une prophétie une indication de la puissance derrière les rideaux. Cette prophétie est relative à Babylone et à la destruction de Babylone. Mais il y avait une plus grande force derrière Babylone, tout comme il y avait une plus grande puissance derrière Tyr. Et nous trouvons cette puissance identifiée et décrite au chapitre 14, à partir du verset 12. Remarquez attentivement. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant signifie Lucifer, fils de l'aurore. Pour vous montrer à quel point cette créature était élevée, il faut juste vous le rappeler dans Apocalypse 22:16, qui décrit Jésus comme l'étoile brillante du matin. Quand Dieu voulait parler de la splendeur de la gloire et de la magnificence de Christ, il l'appelle l'étoile brillante du matin. Ici, quand le prophète parle de cette création angélique, il l'appelle aussi astre brillant, fils de l'aurore. Bien qu'il ne soit pas égal à Christ, une expression similaire est utilisée pour parler de la merveilleuse gloire de cette créature. Alors vous comprenez que c'est une créature glorieuse. Tu as battu à terre, est évocateur de Luc 10:18, où Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Tu as battu à terre, verset 12, toi le vainqueur des nations. Et pourquoi ceci s'était-il produit? Quel était ce péché qui se leva dans le cœur? Quel est ce péché qui se leva dans le sein, pour ainsi dire, de ce chérubin oint? Le verset 13 nous dit tout clairement. Regardez au verset 13. Je, trois fois. Verset 14. Je, cinq fois. Je. Le problème, c'était l'orgueil. Le problème, c'était qu'il s'était enorgueilli à cause de sa beauté. Il était tellement proche qu'il devint jaloux de Dieu et chercha à se faire égal à Dieu. En passant, il offrait encore cette tentation aux autres dans le jardin, n'est-ce pas vrai? Quand il dit à Ève, « Si vous le faites, vous serez comme Dieu, vous serez la différence entre le bien et le mal. » C'était la projection de son orgueil, et c'est le même problème qui subsiste aujourd'hui. Romains, chapitre 1. Les hommes rejettent le vrai Dieu, et de leur cœur, ils s'élèvent pour être égaux à Dieu. Ils créent des dieux de leur fabrication. Ils créent Dieu qui devient un dieu de leur propre conception. Ils deviennent eux-mêmes les créateurs suprêmes ultimes de Dieu. Par conséquent, ils sont Dieu, et en tant que tel, il défie ainsi le vrai Dieu. Cette question de l'orgueil et de recherche de l'égalité avec Dieu est l'héritage que Lucifer a laissé pour le monde entier déchu. Il dit, verset 13, que cela provient de son intérieur, de son cœur. Ce n'est pas dans l'environnement, ce n'est pas réellement lui dans la perfection de sa création, et pourtant cela provient de son cœur, c'est son invention. Aucun élément externe ou interne de la création parfaite de Dieu n'avait stimulé pareille chose. C'est de lui-même qu'il a inventé cet orgueil, et il dit « Je m'élèverai jusqu'au ciel. Il ne me suffit pas d'être là où je suis, je veux aller plus haut, je veux être dans la demeure de Dieu. » Je m'élèverai jusqu'à toute partie du ciel qui pourrait n'être encore occupée que par Dieu, et je prendrai place avec lui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, je cesserai d'être un ange parmi les anges, même si je suis un ange supérieur, et je m'élèverai au-dessus des anges. Étoile, ici, se réfère aux anges. Je dépasserai cela, et je serai comme Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée. Je prendrai place là, où seul Dieu siège. Là où seul Dieu règne, à l'extrémité du septentrion. Les peuples anciens croyaient que les dieux avaient leur résidence dans le septentrion, et donc l'indication de Lucifer ici est qu'il prendra, faisant usage d'une expression familière, place, comme dit le prophète, sur le trône de Dieu. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nus. Ceci se réfère non pas à des nus créés, mais à la gloire, Shekinah de Dieu. Je monterai sur le sommet de la gloire de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Alors de son péché d'orgueil généré et inventé découle le combat, et Dieu répond au verset 15, « Et voici la contre-attaque. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. » Dieu dit, « Je te prendrai et je te détruirai. Je te prendrai et je te dévasterai. » Maintenant, vous comprenez, à partir d'Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, la nature de ce conflit surnaturel. Et il se déroule depuis toujours. Afin de le comprendre, lisez Job, chapitre 1, au verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Des anges viennent devant Dieu, et Satan, son ennemi, vient aussi. En passant, le mot Satan est utilisé dans l'Ancien Testament. Il signifie ennemi ou adversaire. En fait, s'il est utilisé sans un article défini, il est souvent traduit « ennemi » ou « adversaire ». S'il a un article défini, l'ennemi ou l'adversaire, c'est Satan. Le même mot est utilisé 36 fois dans le Nouveau Testament. Alors Satan vient ici. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On voit ici l'agitation de Satan pendant qu'il se promène sur la terre, essayant de tordre le plan et le dessein de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Tu l'as tellement comblé, et c'est tout naturellement, il te craint. Il est riche et il est protégé, et il est béni, et il est dans l'abondance. Mais je te promets, rends-lui les choses difficiles, et il te tournera le dos. » Et vous vous rappelez de l'épreuve. Dieu l'a fait, et Job ne lui a pas tourné le dos, et Satan a perdu le combat. Mais cela nous permet de voir Satan et Dieu dans le conflit, et Satan essaie toujours de jouer contre Dieu. Tu dis que tu as un homme, laisse-le-moi le toucher, et je te montrerai que ce n'est pas ton homme. Il s'efforce de diminuer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, le dessein de Dieu et la volonté de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, plusieurs noms lui sont attribués. Il est appelé l'accusateur des frères. Il est appelé l'adversaire, qui est un mot différent de son nom. Il est appelé Belzébuth, Bélial. Il est appelé le séducteur du monde entier, le grand dragon, l'ennemi, le malin, le père du mensonge, le dieu de ce monde, un menteur, un meurtrier, le prince de la puissance des airs, le maître de ce monde, le serpent ancien et le tentateur. Et il est dressé contre Dieu. Maintenant, il n'est pas seul en ceci. Passons au dernier livre des Écritures, Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. J'aimerais que vous compreniez que nous nous concentrons sur le cœur de ce combat cosmique. Jusqu'ici, nous savons que c'est Dieu contre Satan, et Dieu qui a son saint dessein depuis toujours, et il est attaqué par Satan. mais remarquez l'Apocalypse 12-13. Un autre signe apparut dans le ciel, dans la vision de Jean. Et voici un grand dragon rouge feu. Et dans le symbolisme typique d'Apocalypse, ce dragon a sept têtes, qui se réfère au gouvernement impérial séquentiel du monde. Et vous pouvez le comparer à l'Apocalypse 17-9-11. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il présente ce dragon comme étant la sommation de toutes les formes du gouvernement mondial anti-Dieu. Il a 10 têtes, parce qu'il est le dirigeant suprême et la confédération finale des nations humaines contre Dieu, que nous connaissons de Daniel 7, comme la confédération des 10 nations de l'Empire romain ressuscité, qui se dresse contre Christ. Alors voici le dragon. Il incarne tout le mal du système de l'homme. Il incarne la forme finale du gouvernement mondial dressé contre Christ. Il s'agit ici de nul autre que de Satan lui-même. Et le verset 4 dit que sa queue, la queue du dragon dans cette imagerie, sa queue entraînait le tiers des étoiles. Il y a ce mot étoile qui, encore une fois, renvoie aux anges. Entraîner le tiers des anges du ciel et les jeter sur la terre. Maintenant, nous apprenons de ceci que Satan a chuté. Il a entraîné avec lui le tiers de l'armée du ciel. Maintenant, gardez ceci en pensée. Les anges ne procréent pas. Jésus dit dans Matthieu qu'ils ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage, n'est-ce pas? Les anges ne procréent pas et les anges ne meurent pas. Ils avaient été créés pour vivre éternellement, soit dans le domaine de Dieu, soit dans le domaine de Satan. L'enfer même avait été créé, dit Jésus, pour le diable et ses anges. Et l'enfer est éternel, parce qu'ils sont éternels. Ainsi donc, les anges sont des êtres créés. Ils avaient tous été créés, à un moment donné, et ils sont éternels. Ils ne procréent pas. Il y a de nos jours autant de démons, ou plutôt, autant d'anges déchus et non déchus qu'il y en avait le jour où Dieu les avait créés. Il n'y a ni diminution, ni augmentation de leur nombre. Nous ne savons rien de la création séquentielle, et rien de l'effacement de toute force ou armée angélique. Alors Dieu a créé toute une horde angélique, et c'est la fin de sa création d'anges. Et ils ne procréent pas. Maintenant, de ce groupe, un tiers d'entre eux partirent avec Satan, lors de sa chute. Voilà ce que dit le texte. 2 tiers restèrent avec Dieu, 1 tiers partit avec Satan. Alors Satan n'est pas seul dans son combat cosmique. Bien qu'il soit une créature très puissante, bien qu'il ait une grande influence dans le monde, bien qu'il puisse attirer les âmes des hommes, bien qu'il ait la capacité de devenir la force derrière les gouvernements, les nations et les activités anti-Dieu dans le monde, il n'est pas omniprésent. Il est rapide, mais pas omniprésent. Mais son œuvre est accrue, parce qu'un tiers de toute l'armée angélique est avec lui. Maintenant vous dites, combien sont-ils? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des anges. Et il y a des anges parce que la Bible parle d'eux en termes de myriades, et des milliers de milliers, ce qui est exprimé par le mot grec le plus long pour désigner la numération. Ils n'ont pas de mot plus quantifiant que myriade. Alors c'est tout comme s'ils disaient plus en plus et plus en plus. On pourrait dire des milliards et des milliards et des milliards. En utilisant notre hyperbole typique, nous ne savons pas combien il y en a, mais 1/3 d'entre eux sont activement impliqués avec Satan. Maintenant, certains de ce tiers ne lui sont d'aucun bien. La raison, c'est qu'ils sont liés dans des chaînes éternelles. Nous lisons dans Jude qu'il y a des anges qui avaient péché à l'époque du déluge, dans Genèse 6, et ils furent enchaînés pour l'éternité. Nous ne savons pas combien ils étaient, mais ils descendirent, cohabitèrent avec les humains, produisirent une race hybride que Dieu noya lors du déluge. Ce groupe de démons est lié dans la fosse et dans les chaînes éternelles. Il y en a d'autres, je crois, qui sont temporairement enchaînés. Vous vous rappelez que les démons et le démoniaque de Gadara disaient « Ne nous envoie pas dans la fosse ». Peut-être, au fil de l'histoire de la rédemption, Dieu en a mis encore et encore dans la fosse, et certains d'entre eux seront relâchés, selon Apocalypse 9, lors de la tribulation. Ils vont sortir de la fosse, mais pas ceux dans les chaînes éternelles. Certains d'entre eux sont temporairement enchaînés. Tout ce qu'il y a comme reste, il œuvre avec eux dans le monde, et il œuvre contre Dieu et les saints anges. Maintenant, pour vous donner un meilleur aperçu dans le passage et dans le conflit, nous devons poser la question. Quelle est la cible spécifique de ces êtres angéliques qui sont déchus et qui maintenant sont appelés démons? Retournez au verset 1. Jean parle d'un signe apparu dans le ciel. Une femme vêtue de soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête 12 étoiles. Encore une fois, c'est typique de l'imagerie d'Apocalypse. La femme n'est nulle autre qu'Israël. La femme est Israël. Le soleil et la lune, sans doute, font référence à Jacob et Rachel, et les 12 étoiles feraient allusion aux 12 fils. Vous pouvez comparer Genèse 37:9. Alors voici la femme Israël. Et la femme Israël, verset 2, attend un enfant. Elle pleure pendant qu'elle est en travail, pour être délivrée. Voici cette femme sur le point de donner naissance à un enfant. Maintenant, qu'était-ce ce grand enfant engendré par la nation d'Israël? Le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, et nous le savons. Verset 5, commençons par là. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations, avec un spectre de fer. Bien, cet enfant ne peut être nul autre que Christ, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors nous avons fondamentalement Israël qui donne naissance à un enfant. Au milieu de cette vision, pendant qu'elle désire amener cet enfant au monde, versets 3 et 4, nous voyons Satan rassembler ses forces. Et la fin du verset 4 dit qu'il est prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. N'est-ce pas le cas? Que s'est-il passé à la naissance de Jésus-Christ? Satan n'avait-il pas fait tout ce qu'il pouvait pour détruire cet enfant? Il avait tout essayé, même avant cela. Il avait essayé de détruire toute la lignée divine, dans Genèse 6, en créant une race de démons hommes, issus des démons qui avaient cohabité avec les femmes, et Dieu a dû noyer toute cette civilisation. Il avait essayé de détruire la lignée pieuse, en corrompant tellement la nation d'Israël, qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir une semence pieuse. Même certains des rois dans cette lignée furent maudits, et Dieu dut outrepasser ces rois maudits, notamment le roi Jéconia. Il essaya de tuer les bébés dans le Nouveau Testament à la naissance de Christ, par Hérode. Il essaya de tuer Jésus-Christ en le poussant du haut d'une falaise. Il essaya d'emmener Christ à tomber dans la tentation et à perdre son royaume en commettant l'injustice. Il essaya de tuer Christ dans le jardin. Il essaya de le tuer à la croix. Il essaya de le maintenir dans la tombe. En fait, le dragon se bat toujours contre le Messie. Et c'est ainsi que se déroule le combat. Satan contre Dieu, se focalisant sur la destruction de Christ et son œuvre. Et maintenant, il continue à combattre l'œuvre de Christ dans son Église. Et il combattra Christ quand il reviendra. Il continuera toujours jusqu'à ce qu'il soit finalement lié pour toujours dans la fosse de l'enfer, le lac de feu. Mais je voudrais que vous remarquiez que pendant la période de la tribulation dans le futur, il y a un point focal du combat qui est intéressant. Il dit que la femme, Israël, verset 6, ira dans le désert pendant la tribulation, pour une période de 3 ans et demi, la période après l'enlèvement après la seconde venue. Il y aura un holocauste sur la terre, mais Israël sera protégé. Et pendant que tout ceci aura cours sur la terre, remarquez la description qui vient au verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Maintenant, vous devez le souligner parce que c'est très vrai. C'est une affirmation profonde. Il y a une guerre dans le ciel. Il y aura guerre dans le futur. Il y avait eu guerre par le passé. Il y a une guerre maintenant. Dans cette scène particulière, Michel et ses anges combattent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Là, vous avez un autre élément du combat. Il oppose Dieu à Satan, mais il oppose aussi Satan et ses anges à Dieu et ses anges, dont le chef est maintenant Michael. Michael. Et ils ont combattu, et ils combattent, et ils combattront. Nous le savons de par les Écritures que ce combat n'est pas seulement relégué au futur. Nous voyons Michael lutter avec le diable pour le corps de Moïse dans Jude 9. Donc Michael et le diable y sont engagés déjà depuis l'époque de Moïse, et ils le seront encore dans le futur, pendant la tribulation, et le combat se poursuit tout le temps, entre les saints anges et les anges déchus. Et les amis, nous ne le voyons pas, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des gens qui traversent joyeusement leur expérience de l'Église comme s'il n'existait pas de combat. Et je souhaiterais que nos yeux s'ouvrent pour voir probablement ce qui se déroule dans cette pièce même et que nous ne pouvons pas percevoir maintenant. Mais il est là. La bataille descend éventuellement jusqu'à nous. Allez au verset 17. Le dragon était en colère contre la femme. Il est allé la combattre. Il est allé combattre le reste de sa semence qui observe les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Quand cette rude bataille de la tribulation éclate et que Satan en effet extermine la nation d'Israël, ce qu'il aimerait faire, parce que cela détruirait le plan de Dieu, je trouve triste que les amillénialistes essaient de faire exactement ce que Satan essaie de faire. Ils essaient d'exterminer Israël. Ils essaient de supprimer Israël en tant que nation dûment constituée, qui peut recevoir le royaume qui leur avait été promis. Satan aimerait le faire aussi. Il essaie de le faire littéralement. Ils essaient de le faire théologiquement. Mais Dieu préservera son peuple. Mais Satan attaquera le peuple de Dieu en ce temps-là, comme il a toujours attaqué le peuple de Dieu. Remarquez juste le verset 17. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors maintenant, le combat était filtré. Il avait commencé avec Dieu. Il est descendu au niveau des saints anges et les anges déchus. Et il est encore descendu et est en combat contre ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui observent les commandements de Dieu. Alors nous sommes aussi dans le combat. Vous avez Satan, les anges déchus et les hommes impies d'un côté, Dieu, les saints anges et les rachetés de l'autre, et ils constituent les armées. Qu'une personne dise « Je veux être sexuellement du côté de Satan, mais pieux » est absolument ridicule. C'est de la trahison. C'est de la trahison spirituelle. C'est inacceptable. Allons, nous devons très clairement nous démarquer. Maintenant, écoutez très attentivement ce que je vais dire. Satan ne s'intéresse pas particulièrement à l'individu que vous êtes. Puis-je le dire? Il ne s'intéresse pas spécifiquement à vous. Celui après qui il en a, c'est Dieu. Le comprenons-nous. Satan est Dieu. Vous êtes secondaire, et moi aussi. Il ne s'intéresse à nous que parce que nous faisons un impact pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sa cible. Il veut nous détruire et nous vaincre non parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il déteste Dieu que nous servons et représentons. Alors ce que vous devez comprendre, bien-aimé, c'est que votre combat, votre victoire et votre défaite se reflètent sur Dieu. Quand nous sommes vaincus, Satan a dans un sens effectivement attaqué Dieu. Quand nous sommes victorieux, il est vaincu dans un sens dans ses attaques contre Dieu. N'est-ce pas intéressant de savoir que Dieu lui-même permet que les batailles contre lui soient livrées à notre niveau, afin qu'il soit victorieux, ou, dans un sens vaincu, bien que pas vaincu en définitive, lorsque nous sommes victorieux ou vaincus? Cela vous semble-t-il étrange? Alors pensez encore aux paroles de l'apôtre Paul. Celui qui s'attache à la prostituée attache Christ à la prostituée. 1 Corinthiens 6. Alors Satan attaque l'Église, et il attaque l'Église parce qu'il veut attaquer l'œuvre de Dieu, parce qu'il déteste Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Jésus va dans le temple et il fabrique un fouet et nettoie le lieu, il dit « Je fais ceci parce que vous avez fait de la maison de mon Père une tanière de voleurs » et il parle de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il définit la gloire de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire, et certains d'entre vous disent « Bien ». Je ne vois aucune bataille, c'est parce que vous avez déserté, et nous ne pouvons qu'espérer que vous ne resterez pas absent jusqu'à ce que le Seigneur vous amène au ciel, ce qui, dans le langage militaire, serait une décharge déshonorante. Le nombre de chrétiens qui vivent orientés vers les futilités et qui n'ont aucune idée du combat spirituel, parce qu'ils n'ont pas encore été dans le combat, est ahurissant. Ils sont des soldats sans courage. Ils ne combattent pas le noble combat. Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée, et lui dit au chapitre 2 des paroles, dont nous devons tous nous rappeler, « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous nous attendons à endurer des difficultés. Nous nous attendons à être coupés des affaires de ce monde et de cette vie. Nous nous attendons à faire ce que nous faisons pour la cause de celui qui nous a enrôlés. Alors, bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Enfin. Je le vois. J'espère que vous aussi. Je me souviens encore du jour où je suis entré dans une salle dans laquelle se trouvait une fille possédée de démons, et les voix qui sortaient d'elle criaient « Sortez-le d'ici ! Sortez-le d'ici, pas lui ! Pas lui ! Sortez-le d'ici !» Et j'avais réalisé qu'il savait qui j'étais et du côté de qui j'étais. Et puis, en un instant, cela devint une réalisation terrifiante pour moi, qui fut, quelques moments plus tard, remplacée par un calme, un sentiment établi d'assurance, parce que c'était merveilleux de savoir que les démons savaient à quel côté j'appartenais et qu'ils en étaient effrayés. Incroyable! Je suis conscient d'un combat. J'ai passé 6 à 8 mois avec un homme qui voulait que je fasse de lui un disciple. Et à la fin de cette période, il s'en est allé. Il a rejoint une église qui n'enseigne pas les Écritures, emballé dans un séminaire apostat, et maintenant, il est recteur d'une église épiscopale quelque part. Je sais que c'est un combat, et le combat n'avait rien à voir avec sa pensée intellectuelle. Ce n'était pas un combat de niveau superficiel. C'était un combat beaucoup plus profond. J'ai passé un an à prier avec un homme, à 6 heures du matin, et à la fin, il a abandonné la foi. Ceci est un combat. Récemment, il y a eu une réunion dans le Midwest au cours de laquelle des hommes m'ont critiqué, m'ont jugé, m'ont calomnié, ont calomnié notre ministère à l'Église, ont calomnié l'Église. Ils ont dit toutes sortes de mal contre nous, faussement, et j'ai réalisé dans mon propre cœur, quand ma première réaction a été contre eux, qu'ils sont juste des pions dans un processus qui est beaucoup plus grand que nous ne pouvons voir à la surface, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés et les pouvoirs, et les dirigeants des ténèbres de ce monde, et les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6:12. Maintenant, comment Satan attaque-t-il l'Église? Permettez-moi de vous donner un aperçu dessus. Comment attaque-t-il l'avancée du royaume de Dieu? Tout d'abord, 2 Corinthiens 4:4. Et je vais vous en donner quelques exemples. Pas nécessairement une liste exhaustive. Dans 2 Corinthiens 4:3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est voilé, s'il est malhonnêtement présenté, comme le dit le verset 2, si la parole de Dieu est mal tenue, si la vérité est retenue, ceux qui souffrent sont les perdus. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Savez-vous quoi? Il ne veut pas que l'évangile resplendisse sur eux, parce que c'est l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est la glorieuse révélation de Dieu. Il ne veut pas que la gloire de Dieu soit vue. Alors il aveugle les pensées des gens. Les impies sont aveuglés par Satan. Ils sont aveuglés par son armée, et il attire ses aveugles de diverses façons. Il peut les aveugler à travers l'ignorance. Il peut les aveugler à travers l'incrédulité. Il peut les aveugler par le mauvais témoignage de ceux qui se font appeler chrétiens. Il peut les aveugler par les mensonges et la fausse religion. Il peut les aveugler par l'amour du péché. Il peut les aveugler par des gratifications charnelles qui semblent satisfaire. Mais il les aveugle non parce qu'il les déteste particulièrement, mais parce qu'il a en horreur de voir la gloire de Dieu rendue manifeste par Jésus-Christ. C'est ce qu'il déteste parce que, voyez-vous, il est prêt à être plus glorieux que Dieu, et donc il cherche à aveugler les pensées. Malgré cela, Dieu, par sa grâce, donne la lumière et la vue. Mais cela ne signifie pas que Satan cesse. Que fait-il à ceux qui croient? Laissez-moi partager Luc 22 avec vous. Luc 22, verset 31. Vous vous souvenez de ce récit? Jésus et Pierre, et Luc 22, 31. Très important. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, écoutez maintenant. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi pensez-vous que Satan le réclamait? Satan voulait le cribler comme le froment. Satan voulait le détruire, le secouer, et faire disparaître dans le vent tout ce qui était authentique en lui. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, Satan veut prendre des chrétiens et les détruire. Mais n'est-ce pas merveilleux de voir que, quand il vient avec cette puissance destructrice, le Seigneur nous préserve. L'œuvre d'intercession du souverain sacrificateur Jésus-Christ prie pour nous et notre foi ne faillira pas. Mais notez-le, bien-aimé, Satan veut vous déchirer, il veut éparpiller en l'air votre vie fragmentée, et il veut vous faire perdre votre confiance en Dieu. Il veut vous détruire. Pierre pensait probablement à certaines de ses expériences quand il dit dans 1 Pierre 5:8 « Soyez sobre, connaissez vos priorités, mettez votre vie en ordre, soyez vigilants, ayez vos yeux ouverts, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant quoi ? Qui il dévorera ? Il en a après vous, il veut vous mordre, il veut vous dévorer dans le péché. » Alors, tout d'abord, la stratégie de Satan est d'aveugler la pensée des gens, même quand leurs yeux sont ouverts. Ils voient, ils croient, et ils reçoivent Christ. Il reviendra comme un lion rugissant, car il veut désintégrer ces gens, les déchirer en pièces, détruire leur confiance, détruire leur utilité, détruire leur assurance en Christ. C'est de cette façon qu'il attaque. Et souvenez-vous, bien-aimé, quand des choses qui produisent ces résultats viennent sur vous, souvenez-vous de la source de ces choses. Laissez-moi vous montrer une autre voie. 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Quelle est l'unité que Dieu a prévue pour transmettre la justice d'une génération à l'autre? Qu'est-ce que c'est? C'est la famille. Alors vous savez que Satan attaquera la famille. Et nous voyons ici un aperçu de cela. Il dit au verset 3, « Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » Maintenant, il s'agit ici de ce qui est dû dans une relation conjugale. En d'autres termes, le mari et la femme doivent se satisfaire l'un l'autre physiquement, ce qui fait partie d'une relation de mariage. Afin de mettre plus d'emphase, au verset 4, il dit « La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Elle ne contrôle pas son corps quant à ses désirs. C'est plutôt son mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. C'est pour dire que dans une relation conjugale, le corps d'une personne appartient à l'autre pour la satisfaction des besoins de l'autre, et c'est le dessein de Dieu. Il devrait y avoir une relation physique épanouissante comme partie de l'engagement d'amour dans un mariage. Maintenant, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne le faites pas. Si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Autrement dit, vous n'êtes pas supposé user du refus des faveurs sexuelles comme arme contre votre partenaire ou comme moyen d'exprimer votre colère ou votre indifférence. Si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble. Observez, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le point est le suivant. Satan est là pour faire tout ce qu'il peut pour détruire les mariages chrétiens, évidemment, et il a un taux de succès très élevé, en passant, dans la société contemporaine. Et chaque fois que quelqu'un vient me voir pour me dire que Dieu l'a conduit à quitter son mariage pour épouser un autre conjoint, j'ai envie de lui rappeler que ce n'était pas Dieu et qu'il devrait peut-être lire 1 Corinthiens 7:5 pour savoir qui c'était réellement. En dehors de l'enseignement de Jésus sur un adultère continu sans remords, il n'y a aucune base pour la rupture d'un mariage. Et donc Satan attaquera un mariage, et cette attaque, à cause de la privation des désirs physiques, n'est qu'un emblème de son attaque des mariages des chrétiens, qui est la source de transmission de la justice d'une génération à une autre. Alors, qu'est-ce que ce combat quand il descend à votre niveau? Satan veut détruire l'œuvre de Dieu, il veut détruire l'Église. Non pas parce qu'il déteste l'Église, même s'il est vrai qu'il déteste l'Église, mais principalement parce qu'il déteste le Dieu qui est l'auteur de l'Église. Le problème, c'est Dieu. Nous ne sommes que les instruments par lesquels il peut atteindre Dieu. Pensez-y, quand vous ne parvenez pas à être ce que Dieu veut que vous soyez, vous devenez un instrument dont le diable se sert pour asséner un coup à Dieu. Quand vous et moi vivons comme nous le devrions, nous défendons Dieu contre cette attaque. Alors nous sommes dans un combat, et il cherche à aveugler. Mais ceux qui viennent en vue, il cherche à les dévorer, à les détruire, les désintégrer et ruiner leur utilité, à détruire leur vie de manière à ce qu'en perdant leur assurance et leur confiance, ils deviennent peu utiles dans le combat. Et ensuite il attaque. Invariablement, il attaquera la famille. Laissez-moi vous montrer un autre. 1 Timothée, la même où nous sommes, chapitre 3. Et encore une fois, nous parlons de ce combat, afin que nous sachions ce que nous combattons. 1 Timothée 3 parle du leadership spirituel, un évêque, un ancien ou un pasteur. Il décrit un pasteur ici. Un pasteur doit être irréprochable, marié à une seule femme, et toutes ces choses au verset 2. Puis au verset 6, il dit qu'il ne doit pas être un novice, c'est-à-dire un nouveau converti. Quelqu'un qui n'est pas apte dans les choses de la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas mature, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. L'orgueil avait été à la base de la condamnation du diable, et il en sera de même pour celui qui est très vite élevé en position de leadership spirituel et de proéminence. Le point que je veux que vous notiez se trouve au verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a personne dans l'Église que le diable souhaite attraper dans son filet, autant que le pasteur, d'accord? Et là encore, nous notons qu'il a beaucoup de succès de nos jours. L'Église est absolument sans excuse, à cause de son ignorance dans ces domaines du combat spirituel. Il voile les pensées, et d'une certaine façon, nous ne voyons pas cela. Mais même ceux qui le voient pensent qu'ils peuvent jouer dans le domaine de Satan. Et ils réalisent qu'il les dévore, il les crible, détruisant leur vie pour ainsi dire. Ils sont rendus inoffensifs en termes de force d'utilité. Puis Satan s'attaque à leur mariage. Ensuite, il vient à l'Église dans la dévastation de la direction spirituelle, qui tombe dans ses pièges par immoralité, par fierté, par autoritarisme, dictatorial, n'importe quoi d'autre. Et il y a un autre aspect envahissant que vous devez noter, et nous pourrions regarder plusieurs écritures. Mais laissez-moi vous conduire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, et nous voyons ceci ensemble. Remarquez ce qu'il dit au verset 13. Paul mentionne les faux apôtres. Il parle des vrais et des faux apôtres depuis le chapitre 10, en se défendant contre certaines attaques. Ici, il dit « ceux qui m'attaquent ». Dans un sens, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, pas surprenant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Maintenant, voici ce qu'il dit. Un autre moyen de Satan d'attaquer, et vous le savez autant que moi, c'est qu'il conçoit de faux systèmes religieux. N'est-ce pas le cas? Il y plonge les gens, et ils sont répandus dans tout le monde. Chaque fois que vous voyez une personne dans une église libérale qui entend prêcher une personne qui nie la perdition de l'homme, et récemment je lisais une série d'articles au sujet de l'homme qui croit. Il dit qu'il est évangélique, mais il croit que tout le monde est automatiquement sauvé, que Christ demeure dans la vie de chacun. Toute personne qui enseigne une telle erreur, bien sûr, condamne les gens à l'enfer, parce que les gens ne sont pas responsables de venir à Christ. Tout adepte de l'Église des Mormons, ou des Témoins de Jéhovah, ou qui suit des doctrines de salut par les œuvres dans le romanisme, tout adepte du mysticisme oriental, de l'hindouisme, ou des religions de cette nature, suit ce qu'elle pense être le chemin de la lumière. Mais Satan est transformé en ange de lumière, et c'est un mensonge, c'est une farce, c'est une malhonnêteté, et c'est un désastre en fin de compte. Alors Satan vient contre nous avec la fausse doctrine. C'est rampant. C'est absolument rampant. Je tremble parfois quand je vois ce qui est enseigné au nom de la vérité biblique, et je pourrais donner illustration après illustration. Je viens de lire un livret que quelqu'un m'a donné cette semaine. Je suis allé en enfer. Je suis allé en enfer. Et cet homme raconte comment il est allé en enfer 3 fois. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Que des mensonges. Et pourtant, il est vu comme un enseignant astucieux, un porteur de la vérité. J'ai reçu récemment des coups de fil et des lettres des gens en Argentine qui m'ont demandé d'aller chez eux parce qu'il y a une doctrine de l'erreur qui empiète dans l'Église. Et ils ont demandé si je voudrais y aller, et le dernier appel disait qu'ils voudraient louer le plus grand espace, à Buenos Aires. Et ils ont 4000 pasteurs qui veulent venir pour entendre la parole de Dieu par rapport à cette erreur. 4000 pasteurs qui ont besoin de comprendre les tromperies de Satan. J'ai dit, vous devriez avoir quelqu'un chez vous pour le faire. Ils ont dit, nous voulons que ce soit vous qui veniez. Dieu vous a mis dans nos cœurs. Alors il semble qu'un de ces jours, je m'envolerai pour l'Argentine. Et c'est pour moi un privilège de m'adresser à 4000 pasteurs sur la vérité de Dieu s'ils sont attaqués par les mensonges de Satan. Ce n'est pas qu'ils ne savent que croire, mais ils veulent savoir comment affronter ceci. Et ils veulent savoir comment armer leur peuple, afin qu'il ne soit pas séduit. C'est un combat. C'est une bataille. Elle va dans tous les sens. Et si vous ne le savez pas, comme je l'ai dit, vous êtes un déserteur. Vous dites, mais comment combattre efficacement? Regardons encore le chapitre 10 pendant un moment. 2 Corinthiens 10, 4. Et nous allons conclure avec ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles. Vous ne pouvez pas vous servir de votre intellect. Vous ne pouvez pas vous servir de votre sagesse, de vos talents naturels. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. Nous pouvons renverser le royaume de Satan. Nous pouvons renverser ses imaginations. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu peut être renversée. Nous amenons toute pensée captive, à quoi? À l'obéissance du Christ. Voulez-vous le souligner dans votre Bible? À l'obéissance du Christ. Et Paul dit, verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance à vous sera complète. » Voulez-vous savoir une chose, les amis? Savez-vous quelles sont les armes de notre combat? Je vais vous les donner aussi directement que Paul l'avait fait. Les armes de notre combat peuvent se résumer à une chose. Laquelle? L'obéissance. elles ne sont pas mystiques. Les armes de notre combat ne sont pas l'intellect humain, les prouesses humaines, la capacité humaine, l'aptitude humaine, l'ingéniosité humaine. Les armes de notre combat se résument à l'obéissance. L'obéissance. Quand vous revêtez l'armure de Dieu, vous commencez avec la ceinture de la vérité, un engagement à combattre sur la base de la vérité révélée. Revêtez la cuirasse de justice, qui est sa justice révélée, ayant à vos pieds les dispositions que donne l'évangile de paix, révélé dans sa parole. Votre casque est le casque de l'espérance d'un salut éternel, et votre épée est la parole de Dieu. La seule arme dont nous disposons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une arme charnelle. Quand je sors et que j'essaie d'attaquer le monde des ténèbres, selon mon opinion, je n'arrive nulle part. Quand je sors avec la parole de Dieu, les choses commencent à se faire. La parole de Dieu a une puissance énorme, et c'est l'arme de notre combat. Non seulement la parole de Dieu, mais ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, l'obéissance à la parole de Dieu pendant que nous brandissons l'épée de l'Esprit dans une vie obéissante, une vie couverte de justice comme notre cuirasse. Tenant le bouclier de la confiance et de la foi en Dieu, nous serons victorieux. Je ne crois pas en de petites formules. Je ne crois pas que tu puisses aller au camp et recevoir quelque chose comme un éclair qui durera toute ta vie. La spiritualité n'est pas liée aux éclairs. Elle n'est pas liée aux formules. Elle n'est pas liée aux petites formules de prière, aux petits récits. La spiritualité n'est rien de plus et rien de moins qu'apprendre la vie d'obéissance à la parole de Dieu, de sorte que vous maniez vraiment l'épée. Et c'est ainsi que vous sculptez un passage à travers le royaume des ténèbres. Et c'est ainsi que vous remportez le combat spirituel. Et à un moment donné, vous commencez par vous engager à être obéissant. Et c'est ainsi qu'on commence à combattre un noble combat. C'est pourquoi Jésus a dit « Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, parce que la vie dans la victoire est inextricablement liée à l'obéissance. » Alors ce que Dieu veut, c'est ce noble combat de Timothée. Et ce qu'il veut de nous, c'est que nous combattions le noble combat d'une façon courageuse, c'est-à-dire avec des vies obéissantes. Et nous amenons nos vies à obéir à la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Pendant toutes mes années à Grace Church, je n'ai jamais trouvé aucun intérêt à vous donner des formules. Mais semaine après semaine, et mois après mois, tout au long de ces années, nous avons simplement parlé de ce que la parole enseigne, et nous avons invité les gens à obéir. Et dans cette obéissance, Dieu nous a permis d'avoir une armée qui, par sa grâce, a réellement combattu. Plusieurs d'entre vous ont combattu un noble combat, et Dieu nous a accordé de grandes victoires pour sa gloire, et pour lesquelles nous le louons. Mais si vous n'y êtes pas, et si vous n'êtes pas dans le combat, si vous ne faites pas partie de cette noblesse qui combat comme elle le devrait, que Dieu vous aide aujourd'hui à être là où vous devez être. Père, nous te remercions de nous avoir parlé si directement par ta parole. Nous, comme Timothée, sommes désireux de combattre un noble combat. Un noble combat. Nous comprenons maintenant les proportions de ce combat cosmique et, Seigneur, nous voulons savoir quelle est notre place et ce que nous devons faire. Et tu nous dis, prenez vos armes, et vos armes ne sont pas charnelles, mais vos armes sont des armes d'une vie d'obéissance, qui manie la parole du Dieu vivant. Ô Seigneur, puissions-nous être ces soldats obéissants, qui te serviront à n'importe quel prix, qui endurent volontairement les difficultés, qui se coupent des affaires de cette vie, et qui font ce qu'ils font pour plaire à celui qui nous a enrôlés, et en combattant de la sorte, Seigneur, avec une vie d'obéissance, puissions-nous défendre la gloire qui revient à ton saint nom, et au lieu d'être un sujet de honte pour toi, puissions-nous être une bénédiction. Donne-nous la victoire, Seigneur, afin que tu sois glorifié, et que les calomnies, les accusations et les attaques de Satan contre toi soient vaincues par la puissance en nous, au nom de Christ. Amen. Alors que nous clôturons ce service ce matin, j'aimerais que vous écoutiez les paroles d'un hymne que je vais vous lire, et je veux que vous écoutiez tout simplement dans une attitude de prière les paroles de Isaac Watts. Je pense qu'elles amènent un focus sur ce que nous avons dit. Suis-je un soldat de la croix, un suiveur de l'agneau, et craindrais-je de m'approprier sa cause, ou rougirais-je à l'idée de prononcer son nom? Dois-je être emporté dans les cieux sur des lits de roses d'aisance, alors que d'autres combattaient pour gagner le prix et voyager par les mers sanglantes? N'y a-t-il pas d'ennemis que je dois affronter? Ne dois-je pas contenir la tempête? Ce monde vil est-il un ami de la grâce pour m'aider à m'accrocher à Dieu? Sûr, je dois combattre, si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. Je supporterai la besogne, j'endurerai la douleur, soutenu en cela par ta parole. J'espère que la prière de cet hymne, la prière de Isaac Watts, est aussi notre prière.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.